Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Arjuna Andrade, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Nicolas Mathias.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est à l'université d'été du MEDEF que nous ouvrons ce troisième temps de notre semaine consacrée à la crise financière, en direct et en public depuis le campus de HEC à Jouy-en-Josas. Après l'histoire de la dérégulation lundi, l'observation au microscope de la panique financière hier, on s'intéresse aujourd'hui aux conséquences environnementales du séisme de 2008. Jamais les prévisions des scientifiques n'avaient été aussi alarmistes. Début août, une étude de la revue Proceedings of the National Academy of Science estimait que la Terre était proche du point de rupture. Ce n'est plus de 2 degrés ou de 3 degrés que la température de la planète pourrait augmenter, mais bien de 4 ou de 5 degrés en raison d'un terrible effet domino. Pendant ce temps, en France, le ministre de l'écologie avouait son impuissance et jetait l'éponge. Après 15 mois de tentatives avortées et d'espoirs déçus, il était le 13e ministre de l'environnement en 20 ans. Alors quel rôle la crise de 2008 a-t-elle joué dans ce désastre environnemental annoncé ? Quelle politique aurait été mise en place dans un scénario idéal où la débâcle financière n'aurait pas eu lieu ? Et plus largement, comment conjuguer aujourd'hui impératifs économiques et transition écologique ? On en parle avec Benoît Legay, directeur général de l'Institut for Climate Economics, un think tank sur l'économie de la transition énergétique fondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, et Antonin Potier, docteur en économie de l'environnement, maître de conférence à l'EHESS et auteur de « Comment les économistes réchauffent la planète au seuil ». À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Je n'y crois plus. Pas en l'état. Pas dans ce mode de fonctionnement. Pas tant que l'opposition ne sera pas capable de se hisser au-dessus des querelles habituelles pour se retrouver sur un sujet qui est un enjeu supérieur, qui détermine tout. Je pensais qu'à la sortie de l'été, où la Californie brûle, où la Grèce brûle, où l'Inde subit des inondations, mais après nous-mêmes, une année terrible à Saint-Martin, mais y compris en métropole, quand je vais en Guadeloupe et que je vois une petite conséquence des changements climatiques, petite, pardon, pour les Guadeloupéens et les Martiniques, mais l'invasion des sargasses qui leur pourrit la vie au quotidien. Et petit à petit, on s'accommode de la gravité. La vérité, elle est celle-là. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien, la réponse, elle est non. La pression du court terme sur les dirigeants, sur le Premier ministre, est si forte qu'elle préempte les enjeux de moyen ou de long terme. C'est la vérité. Parce que sur le bureau d'un Premier ministre, il y a des exigences sociales, des exigences humanitaires, j'allais dire, qui légitimement relèguent toujours sur le côté les enjeux du long terme, qui prennent notre société de court.
Benoît Legay et Antonin Potier, bonjour.
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 Alors, on va essayer de s'entendre malgré le déluge qui s'est abattu autour de nous à cette université d'été du MEDEF. Mais une première réaction d'abord sur cette démission du ministre de l'écologie et sur ce que nous dit ici Nicolas Hulot, Benoît Legay.
Oui, alors je partage le constat de Nicolas Hulot sur le fait que nous sommes face à une urgence. Et face à cette urgence, il faut agir. Agir vite et agir de façon appropriée. Faire des petits pas, c'est bien, mais la question n'est pas de savoir si on part du principe qu'on va dans le mur, la question n'est pas de savoir si on y va très vite ou un peu moins vite, c'est d'éviter le mur.
Antonin Potier, pour vous, c'est le signe que l'on ne peut pas faire de changement à la marge, il faut transformer le système dans son ensemble?
Je crois que ce que Nicolas Hulot a dit, c'est effectivement la difficulté d'articuler court terme et long terme. Et justement, une des questions... ce que l'écologie peut apporter, c'est justement de trouver des solutions aux problèmes de long terme qui soient de court terme. C'est-à-dire de se mettre dans la perspective de résolution de la crise climatique, par exemple, de la crise de la perte de la diversité biologique, et de prendre au quotidien des mesures qui, à la fois, résolvent les problèmes de court terme et qui, en plus, nous engage dans la bonne direction à long terme.
Alors avant de voir l'impact que la crise de 2008 a eu sur l'environnement, est-ce qu'on peut d'abord dire, Benoît Legay, que cette crise, elle a aussi des racines écologiques ?
Alors, c'est une bonne question. Y a un débat parmi les économistes sur cette question. J'aurais tendance plutôt à poser la question d'une autre façon. Et si vous le voulez bien, je vais plutôt la formuler de cette façon. Peut-on vivre sans écologie ? Je vais plutôt la faire comme ça. Alors moi, il y a deux phrases que j'aime beaucoup. Il y a une phrase qui avait été sortie lors de la COP21 par les syndicats de travailleurs. Ils avaient rappelé à juste titre qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Et en fait, ça remet déjà les choses dans le bon sens. C'est-à-dire, quelque part, l'environnement, c'est quelque chose qui nous environne. Et si on perd cet environnement, on perd également un certain nombre de capacités productives. On perd finalement ce qui fait ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire finalement des échanges, marchands ou pas, entre des individus. Mais qui finalement est notre vie quotidienne. L'autre phrase que j'aime bien, c'est celle des ingénieurs agronomes, qui rappellent également à juste titre, sans agriculture, il n'y a rien. Et j'aurais tendance à dire, sans environnement, il n'y a pas l'agriculture, par transitivité.
Antonin Potier, pour vous, cette crise de 2008, elle a des racines idéologiques en écologique?
Elle a certainement des racines idéologiques au moins si fortes que ses racines écologiques. Je pense quand même que le mouvement qui en fait s'est achevé avec la crise de 2007, enfin dans la crise de 2007 est un peu l'aboutissement, c'est ce mouvement de dérégulation des marchés financiers qui a été entamé à partir des années 80, et donc là les racines idéologiques de la crise de 2008 sont effectivement extrêmement fortes. C'est cette volonté de développer en premier lieu les marchés financiers et de faire des marchés financiers le mode d'orientation du chemin que prennent nos sociétés. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu des tensions sur les matières premières, sur les énergies notamment, qui ont accompagné la crise de 2008. Il est difficile de savoir si c'est une cause ou une conséquence de cette crise. Mais ce qui est sûr, c'est que la direction qui a été prise pendant cette vague de dérégulation n'a absolument pas permis de contrer les menaces écologiques qui sont connues quand même depuis en gros le début des années 70, donc depuis avant cette vague de dérégulation.
Benoît Leguet, par rapport justement à cette question de la hausse des prix de l'énergie et des produits agricoles, est-ce que selon vous c'est lié à la crise de 2008 et de quelle façon ? Cause, conséquence ?
Je ne sais pas. Pour être honnête, là-dessus, je n'ai pas d'avis. Comme je l'ai dit, il y a débat et Antonin a rappelé à juste titre. Voilà, on ne sait pas trop si c'est la cause ou la conséquence.
Ce qui est certain, c'est que l'Europe est désormais quasiment dépourvue de toute ressource en énergie fossile et en matières premières minières sur son territoire. Et les prix des matières premières, on sait qu'ils avaient diminué de façon assez drastique à partir de 2014. Maintenant, ils sont à nouveau à la hausse. Et selon vous, ils ne devraient cesser d'augmenter ?
Alors, c'est une bonne question. J'aurais d'abord une objection, votre honneur, sur le fait que l'Europe soit dépourvue de ressources minérales. L'Europe a encore des gisements de charbon qui sont certes petits au regard de ce qu'on peut avoir en Australie, aux États-Unis, en Russie ou ailleurs, mais il y a quand même un certain nombre de pays européens qui dépendent très largement du charbon pour leur approvisionnement électrique. Je pense à la Pologne, je pense à l'Allemagne, ne l'oublions pas non plus.
Et le fait que l'Europe va quand même être amenée à exporter un certain nombre de matières premières, voilà, qui plaide aussi en faveur de cette transition écologique, Antonin Potier.
Je crois que justement, une des caractéristiques de l'Europe, c'est d'avoir été un des premiers pays industrialisés, donc d'avoir quand même beaucoup puisé dans ses réserves de charbon, d'avoir épuisé les réserves de pétrole de la mer du Nord, enfin, en tout cas les avoir largement entamées. Et là, il y a un alignement qui n'est pas le cas dans les autres pays, qui est que l'Europe, étant un territoire moins pourvu de ressources que d'autres, que par exemple le Moyen-Orient, ce qui concerne le pétrole, devrait justement se saisir de cette opportunité qu'est la nécessaire conversion écologique de nos économies pour se dispenser complètement de ces produits qui sont importés et qui représentent un poids sur l'économie. C'est pour ça qu'on oppose souvent économie et écologie. En fait, on oublie quand même que la facture pétrolière, pour un pays comme la France, c'est un point de vue important et c'est ce qui creuse sa balance commerciale dès que les prix du pétrole montent. Donc, protégeons-nous contre ça en menant des politiques qui, justement, réduisent cette demande de pétrole et qui, du coup, produisent moins d'émissions de CO2. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à concilier le court terme des impératifs économiques et le long terme de l'écologie.
Alors avant d'en venir aux différentes manières d'amorcer une transition décarbonée, restons encore un petit peu sur la crise et sur les conséquences directes qu'elle a eues sur l'environnement. Jusqu'à quel point, Benoît Leguet, diriez-vous que la crise de 2008 a donné un coup d'arrêt aux mesures en faveur de l'environnement ?
Alors ce qui est certain, c'est qu'en période de crise, on a tendance, enfin, les hommes politiques ont plutôt tendance à réduire la voilure et à essayer de préserver ce qui leur semble important sur le court terme. Ce faisant, ils oublient en général ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Alors, Donc il y a certainement des mesures qui auraient pu être prises, qui avaient été envisagées, qui n'ont pas été prises. Je pense, je veux pas couper l'herbe sous le pied d'Antonin, je pense qu'il aura un certain nombre d'exemples à montrer. Et puis, il y a quand même un truc qui me semble important, c'est que la crise, de façon paradoxale, a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en période de crise, l'économie se contracte et les émissions de gaz à effet de serre ont tendance à se contracter. Alors c'est une super nouvelle à court terme. Sauf que le retour de bâton est immédiat. En période d'embellie économique, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse, et d'autant plus à la hausse qu'il n'y a pas eu d'investissement propre.
Et alors, Antonin Potier, sur cette question des mesures qui auraient pu être prises et qui ont été coupées, empêchées par cette crise de 2008 ?
Alors, c'est assez difficile de savoir exactement quelles sont les mesures qui ont été vraiment empêchées par la crise de 2008. Moi, ce que je préfère pointer, c'est le fait que la crise est un moment de transformation. Et la crise économique de 2008 a été un moment de transformation des économies occidentales. Il y avait un certain nombre de pistes qui étaient ouvertes pour que ces économies se transforment. Il y avait un certain nombre de propositions qui ont été faites pour accentuer la transition énergétique et écologique, pour accentuer la reconfiguration de nos économies vers des économies qui, en gros, émettent moins de gaz à effet de serre, ne consomment plus les terres agricoles et protègent la biodiversité. Par exemple, une de ces propositions, c'était ce qu'on appelait le Green New Deal, c'est-à-dire un New Deal vert, le fait de faire une relance économique ciblée vers les secteurs qui, justement, sont des secteurs, disons, écologiques, qui participent à cette transition. Or, ce qui a été choisi d'être fait, c'est une relance à l'ancienne, on va dire, sans considération des secteurs qui sont relancés. Donc là, vous voyez, il y a une option qui a été prise, qui a été de continuer dans ce qui se faisait avant, plutôt que de se saisir de l'opportunité de la crise pour se transformer. Il y a aussi autre chose, qui est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc c'est le moment d'investir massivement dans des infrastructures de long terme qui vont durer 20-30 ans. Les taux d'intérêt sont aussi bas, on peut emprunter de l'argent à presque rien. Ça n'a pas été fait. Là encore, il y a tout un tas de mécanismes qui sont mis en place. Alors, on pourra revenir après sur pourquoi est-ce que finalement cette orientation n'a pas été prise. Mais je crois qu'un des éléments extrêmement importants, c'est le fait que les élites, si on veut, les dirigeants politiques et économiques ne croient pas, non pas à la nécessité de la transition, mais ne croient pas au modèle final qui est proposé. Et c'est ce que montrait, à mon avis, un peu la démission de Nicolas Hulot sur laquelle vous avez commencé cette émission.
Il y a eu en tout cas un élan écologique assez fort qui avait été donné en 2007 à l'aube de la crise avec le Grenelle de l'environnement, et on s'est rendu compte effectivement que ces mesures subissaient un véritable coup d'arrêt. Ça s'est traduit en 2010 par cette petite phrase de Nicolas Sarkozy. Rappelez-vous, c'était au Salon de l'agriculture.
Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Je souhaite que on montre l'exemple, mais qu'on avance en regardant ce que font les autres. Parce que sinon, il n'y aura plus d'éleveurs de porcs bientôt chez nous.
L'environnement, ça commence à bien faire, nous dit alors Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que traduisent ces mots? Et alors, quelles conséquences vont-ils avoir? C'est l'idée que cela risque, la transition écologique, d'entraîner un chômage de masse, de pénaliser les consommateurs en bout de chaîne. Donc, ce n'est évidemment absolument pas vendeur politiquement. Benoît Leguet.
Alors effectivement, les craintes, c'est que la protection de l'environnement conduise à imposer un certain nombre de contraintes sur les acteurs économiques et que donc ça conduise à une récession. Alors dans certains cas, faut pas le voiler. Effectivement, on peut avoir des contraintes supplémentaires qui se traduisent par un impact récessif. Mais cet impact récessif peut être très largement compensé par une utilisation intelligente, par exemple, des revenus de taxes nouvelles qui sont mises en place afin de compenser les perdants, entre guillemets, voire les surcompenser. Ça, c'est quelque chose en fait qui est très rarement vu. Et j'allais dire, c'est facile de dire l'environnement, ça commence à bien faire, parce que finalement, ça plaît à beaucoup d'acteurs à court terme. Mais encore une fois, on scie la branche sur laquelle on est assis. Simplement pour rebondir également sur ce qu'a dit Antonin,
allez-y,
je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire que dans le plan de relance, notamment au niveau européen, le plan Juncker, c'est un plan à la grand-papa. C'est-à-dire que finalement, les préoccupations environnementales et de durabilité plus largement n'ont absolument pas été prises en compte. En forçant un peu le trait, on peut dire que le plan Juncker, ça a servi avant tout à financer de l'autoroute dans ce qui était l'Allemagne de l'Est plutôt qu'à financer des centrales à biomasse en France ou en Bulgarie ou je sais pas.
On a raté une occasion, on l'entend bien. Alors il y a en quelque sorte deux voies possibles qui mènent à la transition écologique. L'une souhaite concilier l'économie de marché et la protection de l'environnement. L'autre estime qu'il ne peut pas y avoir de transition écologique tant que l'on reste dans un système capitaliste. C'était l'objet de l'essai de Naomi Klein il y a 3 ans, intitulé « Tout peut changer ». Antonin Potier, alors vous allez me le dire, mais je crois que vous êtes plutôt l'un des défenseurs de cette deuxième voie plus radicale. Pourquoi, selon vous, il est difficile de concilier cette économie de marché et la protection de l'environnement? Pourquoi faut-il sortir du capitalisme?
Alors ça, c'est une question assez vaste. Est-ce que je peux revenir sur la citation de Nicolas Sarkozy?
Bien sûr, je vous en prie.
Parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant qui a été dit par Nicolas Sarkozy. C'est le fait de regarder les autres. Et en fait, une des difficultés à opérer la transition écologique, c'est une transition écologique qui ne concerne pas un seul pays. C'est une transition écologique qui concerne la plupart des pays occidentaux et qui doivent aussi entraîner dans cette voie-là les pays du tiers-monde, les pays en développement, comme on dit publiquement, et les pays émergents. Et ça, c'est là toute la difficulté, c'est la difficulté de la coordination à l'échelle internationale de la transition écologique. Et la crise est un moment de... Justement, la crise 2008 est un moment où tous les pays, en gros, sont en crise à plein moment. On aurait pu effectuer cette coordination et on ne l'a pas faite. Et ça, je crois que cette peur de se faire doubler par un concurrent qui, lui, ne choisirait pas cette voie, mettons les États-Unis de Trump aujourd'hui, qui prennent une voie qui est complètement anti-écologique, on dit, nous, finalement, on ne va pas le faire parce que peut-être que finalement... Et donc ce jeu de se regarder tout le temps, c'est un des grands freins à la transition écologique. Et les choses seraient peut-être plus faciles si on était dans un système bien moins interdépendant, on ne serait pas dans un système aussi globalisé, et si chaque pays pouvait décider.
Et alors, sur cette nécessité de sortir du capitalisme, vaste question, en effet, vous écrivez que c'est parce que c'est un système qui menace doublement l'environnement, c'est-à-dire en amont, avec la prédation sur les ressources naturelles, et en aval, avec la pollution.
Alors effectivement, un des points déterminants aujourd'hui, je crois que la plupart des gens sont d'accord là-dessus, c'est la question de la pollution et moins la question de la raréfaction des ressources. C'est-à-dire à l'échelle globale, quand on regarde les craintes qu'il pouvait y avoir sur la disponibilité des ressources énergétiques, aujourd'hui on a beaucoup trop de pétrole, de gaz naturel et de charbon. On a suffisamment de pétrole, de gaz naturel et de charbon pour produire un changement climatique énorme qui détruirait les écosystèmes et qui entraînerait une planète étuve, comme le disait Nicolas Hulot. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Il est possible de faire des choses au sein du système économique actuel. Benoît Le Guay le rappelait tout à l'heure. On peut effectivement mettre des taxes, les recycler intelligemment. La véritable question, c'est jusqu'où on peut aller dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en restant au sein de ce système-là? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Et l'objectif, quand même, à la fin, aujourd'hui, c'est très clair, c'est de ne plus avoir du tout d'émissions de gaz à effet de serre à partir de l'horizon 2050 pour les pays occidentaux. C'est-à-dire véritablement zéro émission. L'objectif zéro émission, maintenant, est acté. Et même si on veut tenir cet objectif des 2 degrés, sans parler d'objectif de 1,5 degré, on va devoir pomper du gaz carbonique de l'atmosphère, donc ce qu'on appelle dans notre jargon technique les émissions négatives. Donc, en fait, on pompe ça. Donc, c'est quelque chose qui est un peu démentiel à faire d'un niveau au niveau écologique. Et donc la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller en restant effectivement dans le système économique actuel. Et pour moi, une des tares du système économique actuel, alors il y a les rapports de force qu'on connaît, les jeux de lobby, le fait que effectivement les grandes entreprises ont plus de poids dans la décision que des petites entreprises qui débutent dans des secteurs potentiellement novateurs, comme les secteurs qui protègent l'environnement et disons, on peut opposer les grands agriculteurs bénéficient de l'agro-industrie aux petits paysans producteurs bio, si vous voulez, qui n'ont pas, bien sûr, en termes de rapport de force, la même chose. Mais le véritable problème, c'est que le capitalisme est géré par la perspective du profit. C'est-à-dire que ce qui fait les décisions de production, notamment des entreprises, c'est le fait de faire le profit maximum. Et on considère aujourd'hui que c'est tout à fait normal qu'une entreprise fonctionne de cette manière-là. Mais si on gère le système de cette façon-là, on produit ce qu'on appelle en économie des externalités, c'est-à-dire des coûts, si vous voulez, qui ne sont pas supportés par l'entreprise qui crée ça, mais qui sont supportés par la collectivité. Et le capitalisme est un formidable générateur de richesse, comme on le dit souvent dans ces lieux-là de l'Université d'été du MINEF, mais c'est aussi un formidable générateur d'externalités. Et donc ça génère tout un tas de vecteurs de pollution tout un tas de pollution, de catastrophes environnementales qui ne sont pas prises en compte dans les coûts des entreprises. Et pour moi, c'est ça qui me fait douter de la pertinence à long terme, on va dire, de rester dans le système capitaliste. Ensuite, il ne faut pas non plus, je terminerai par ça, il ne faut pas non plus se dire que, faire un préalable, à mon avis, à la sortie du capitalisme, il faut commencer à changer les choses de l'intérieur, et ensuite la transition, à mon sens, s'enclenchera d'elle-même.
Par ailleurs, même si collectivement les capitalistes avaient intérêt à limiter leur pollution, c'est ce que vous dites, chacun pris individuellement a intérêt à ne pas le faire, c'est le thème du passager clandestin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Donc si l'entreprise, par exemple, propose un produit moins polluant mais plus cher, elle va perdre des parts de marché. Et c'est les entreprises concurrentes qui proposent le même produit, mais avec des processus de production plus polluants, qui vont emporter le marché. L'entreprise va disparaître. Donc ça, c'est l'essai à lui-même. Si vous voulez, le capitalisme, effectivement, génère la pollution. On ne veut pas avoir ça. Mais ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est qu'au sein même du capitalisme, il y a un acteur très extrêmement important qui est l'État, qui est celui qui fixe les règles, qui encadre, qui fixe les normes. Et donc l'État peut diriger quand même ce processus. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que les hommes politiques essayent de faire. Donc si vous voulez, il ne faut pas non plus se dire que tout est irrémédiablement perdu. On peut quand même faire des choses. La question, c'est vraiment jusqu'à quel point on peut faire ces choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre dans l'état du système actuel.
Mais ce que vous expliquez, c'est que la régulation par l'État, justement, est souvent, sinon toujours en retard par rapport aux innovations des entreprises et de leur externalité, ce que vous nous expliquiez.
Exactement. C'est-à-dire comme le capitalisme produit toujours des externalités, produit toujours des innovations. Ce n'est pas forcément que c'est des externalités. Hein. Ça peut être des nouvelles molécules chimiques qu'on met extrêmement longtemps à évaluer, dont on met extrêmement longtemps à percevoir les conséquences sanitaires, environnementales, les conséquences sur les écosystèmes. Il y a beaucoup de débats actuellement sur les néonicotinoïdes et surtout sur le mode d'enrobage de ces pesticides au niveau des semences qui seraient pour être responsables d'une perte de biodiversité, notamment de la disparition de populations d'insectes. Donc ça, vous voyez, c'est des conséquences qui sont très longues à être prises en compte. Le capitalisme déborde un peu les instances de régulation chargées d'observer ça, déborde on ne peut pas mettre des capteurs et des scientifiques sur tous les sujets pour faire ça. Donc on finit par se retrouver par de gros problèmes du fait même des capacités d'innovation du capitalisme. Donc c'est pour ça qu'on a une série de problèmes environnementaux qui ne cessent d'arriver et qui sont extrêmement différents et extrêmement divers.
Vous dites qu'il n'y a pas de volonté populaire forte en faveur de mesures protégeant l'environnement. Pourtant, la conscience de l'urgence environnementale, elle n'a jamais été aussi importante.
Je ne sais pas si on peut dire ça. Si on regarde les textes qui pouvaient se faire dans les années 70, au moment des grandes mobilisations début des années 70, 71, 72, la conscience environnementale est aussi très forte. Donc aujourd'hui, effectivement, une conscience environnementale forte, mais qui ne s'accompagne pas par des actes. Et la prise de conscience ne suffit pas. Et alors, là, il y a vraiment une sorte d'illusion, je pense, de notre époque, qui a été mise en évidence par un certain nombre d'historiens, qui consiste à croire qu'on serait supérieur aux époques précédentes, parce que, certes, on polluerait beaucoup, mais au moins, on en serait conscient. Et en fait, les autres époques étaient aussi conscientes qu'elles polluaient, et malheureusement, ça n'a rien changé. Donc, le fait que la conscience environnementale, aujourd'hui, soit peut-être plus élevée qu'elle n'a pu l'être à d'autres époques de l'histoire, mais là encore, ça demande à être relativisé, n'est pas pour moi un facteur d'optimisme.
Benoît Loguet, sur ce qu'on vient de commencer à expliquer, votre position sur cela.
Alors, effectivement, la question de savoir est-ce qu'il faut sortir du capitalisme ou pas, moi je serais plutôt sur l'école. Commençons déjà avec ce qui existe, on ne peut pas faire tabula rasa et se dire, voilà, faisons sans le capitalisme. Donc, la question, comment peut-on réformer le système économique actuel afin d'essayer de prendre en compte l'environnement? Alors, je voudrais faire deux points là-dessus. Le premier point, pour rebondir sur ce que disait Antonin sur les externalités, effectivement, des acteurs économiques dans le système actuel produisent des externalités. Et donc, le rôle de la collectivité, du régulateur dans ce cas, de l'État, c'est d'internaliser les externalités. Alors, excusez-moi pour ce jargon, mais en gros, c'est-à-dire faire supporter à l'acteur économique, à l'origine de la nuisance, le coût de cette nuisance. Alors, c'est pas toujours possible.
Et là encore, il faut de la volonté politique.
Il faut de la volonté politique, c'est pas toujours possible. Il se trouve que le secteur sur lequel je travaille, qui est le changement climatique, c'est relativement simple. On a une unité de mesure qui est contestable, mais qui vaut ce qu'elle vaut, la tonne équivalent CO2. Et un certain nombre de pays et de juridictions ont mis en place des prix du carbone. On a notamment en France un prix du carbone. En Europe, il y a un prix du carbone sur d'autres secteurs. Même dans des États américains, il y a des choses. Alors, est-ce que le prix du carbone est suffisant pour générer les changements nécessaires qui sont radicaux et nous amener à un monde dans lequel on est zéro émission nette, comme l'a rappelé Antonin? Ça, c'est la question à 100 roubles. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Et la deuxième, mais là, il faut de la volonté politique. Il faut mettre des valeurs du carbone et les expliquer aux acteurs économiques, c'est-à-dire non seulement aux entreprises, mais également aux consommateurs. Seriez-vous prête à payer plus cher les biens dont vous disposez librement, tout simplement parce qu'il y a du carbone dedans caché? Il y a du carbone partout, hein, je vous rassure tout de suite. Le deuxième point, c'est sur la motivation des acteurs dans le monde capitaliste. Il y a certes la question du profit, du rendement, mais il y a également la question du risque. Et ça, c'est une autre façon d'essayer d'internaliser les externalités, c'est de faire comprendre aux différents acteurs, et notamment aux acteurs financiers, quels sont les risques qu'ils supportent en investissant dans des actifs dont la pérennité pourrait être mise à mal. Je vous donne un exemple. Je suis aujourd'hui une compagnie qui est très largement exposée aux combustibles fossiles, un pétrolier, un gazier, un charbonnier. Si je suis persuadé que les hommes politiques, que les politiques vont mettre en place des politiques qui vont conduire à l'exclusion de ce type de combustible, je peux me dire que mon business est en péril. Si moi je suis maintenant investisseur dans cette entreprise, je pourrais avoir intérêt à retirer mes billes. Pas pour protéger la planète, hein, pour protéger mes avoirs, mes actifs. Donc ça, c'est une autre façon de faire. C'est quelque chose sur lequel on progresse. Je ne suis pas certain aujourd'hui que toutes les entreprises aient conscience pleinement des risques environnementaux qui pèsent sur la valeur de leurs actifs.
On va revenir au rôle des entreprises et au coût du carbone, qui est effectivement un aspect essentiel. Mais je voudrais d'abord qu'on finisse sur cette question de la volonté populaire ou non de faire évoluer véritablement la défense de l'environnement. Est-ce que vous diriez, Antonin Potier, que les modes de consommation sont désormais trop ancrés pour pouvoir être remis en cause? Et là encore, vous pointez du doigt le capitalisme qui aurait créé ce que vous appelez cet homo economicus.
Disons que si on regarde effectivement sur une trajectoire longue, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, on voit la création d'un certain type de personnalité qu'on peut appeler homme économique, homo economicus, qui consiste à agir sur des motifs d'intérêt et donc qui est congruent au système capitaliste qui fonctionne justement sur la récompense de ce type de motivation, sur la recherche du profit, et donc qui en crée une série de sphères pratiques culturelles, notamment effectivement l'importance de la consommation. La consommation, ça peut aussi évoluer très vite. Hein. Les normes de consommation peuvent changer très lentement. Donc, à partir de l'état actuel des choses, il est difficile de dire qu'on n'en reviendra pas vers des modes de consommation peut-être plus frugaux, plus sobres, qui seront moins destructeurs aux consommateurs de ressources. En revanche, il y a un certain nombre de tendances actuelles qui ne vont pas du tout dans cette direction-là. Et c'est plutôt ces tendances-là, en fait, ces tendances d'évolution qui consistent à peuvent nous rendre un petit peu dubitatifs sur la possibilité d'évoluer, faire évoluer le mode de consommation, notamment la consommation des objets numériques, qui est en fait extrêmement polluante, qui a effacé la consommation de l'électricité spécifique liée à ces objets, ordinateurs, tablettes, smartphones, a effacé les gains qu'on avait pu faire, notamment avec les ampoules basse consommation sur l'éclairage. Donc là, ça c'est un des exemples, si vous voulez, où il y a ça. Ensuite, il y a la question du tourisme. Les gens vont de plus en plus loin, de plus en plus souvent, prennent de plus en plus l'avion, et ça, on sait que le secteur aérien, c'est un des grands contributeurs à effet de serre, et on voit pas de moyen de ralentir la progression de ce secteur-là. Et là, on a une tendance culturelle vraiment très forte, qui s'oppose complètement à la prise en compte des questions environnementales par la consommation.
Benoît Leguet, sur cette nécessaire évolution des modes de consommation, vous appelez à un changement culturel ?
Complètement. Si on veut ramener les émissions à net zéro dans les 50 prochaines années, on peut certes parier sur le progrès technologique, et il est indéniable que dans les 50 prochaines années, il y aura des avancées technologiques. Il est possible qu'on ait le temps de les déployer à l'échelle, mais il ne faut pas rêver. Et on ne pourra rien faire si on n'a pas un changement de mentalité et d'habitude.
I threw a rock in the water, and guess what the water said? Gotta get rid of pollution.
Vous écoutez France Culture ? Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'était Pollution de Tyler Coco et nous sommes toujours en direct et en public à l'université d'été du MEDEF à Jouy-en-Josas. On parle avec Benoît Leguet et Antonin Potier des liens entre crise et environnement et plus largement entre impératifs économiques et transition écologique. Alors comment justement réformer le capitalisme en faveur de mesures environnementales ? C'est ce que nous explique Gaël Giraud.
Il y a une très très forte dépendance de la croissance telle que nous savons en produire un petit peu depuis quelques décennies et la consommation d'énergie. Et donc là il y a un énorme sujet qui est, croyons-nous que nous allons pouvoir avoir de la croissance dans les années qui viennent sans augmenter la consommation d'énergie ? La réponse est non, fondamentalement. Et du coup ça pose la question de quel type d'énergie voulons-nous consommer à l'avenir si nous voulons continuer à avoir de la croissance ? Sans quoi, le grand thème de la stagnation séculaire que met en avant un économiste américain comme Gordon aujourd'hui est vraiment devant nous. C'est-à-dire qu'on pourra aussi bien la chercher avec les dents si on veut, on n'aura plus de croissance en France. Il y a à la fois un choix technique et démocratique pour nous qui est le mix énergétique que nous voulons pour 2025-2030. Il y a des efforts considérables d'efficacité énergétique et aussi probablement de sobriété et de réduction de la consommation énergétique parce qu'on ne pourra pas juste tout faire porter sur l'efficacité énergétique. On peut demander beaucoup aux ingénieurs, mais ils ne peuvent pas nous promettre la lune non plus. Donc c'est aussi du côté de la demande vers une sobriété qu'il faut aller.
Le chercheur Gaël Giraud dans l'économie en question sur France Culture, c'était en 2016. Gaël Giraud que vous pourrez entendre tout à l'heure au grain à moudre d'Hervé Gardette. Benoît Leguet, on l'entend, l'enjeu central de la transition écologique, on le sait, c'est la mise au point du mix énergétique, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aussi aller vers la sobriété énergétique. Et dans ce cas-là, de quelle façon ?
Alors la sobriété, c'est simple, c'est renoncer à une consommation. On pourrait le faire et on décide de ne pas le faire. Alors c'est simple sur le papier, en pratique c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est pour reprendre les exemples que donnait Antonin tout à l'heure, c'est renoncer à aller à l'autre bout de la planète en avion par exemple, c'est renoncer à avoir, pour donner d'autres exemples, renoncer à avoir un pavillon en banlieue qui fait 300 mètres carrés, c'est renoncer à tout un certain nombre de choses qui peuvent paraître importantes dans le contexte actuel. Voilà, ça demande un petit peu de discipline, mais finalement, je pense que Gaël le dit bien, on peut faire de l'efficacité énergétique, c'est possible, il y aura de la technologie, mais il y aura avant tout un changement de comportement, un changement de mode de consommation et de modèle de société.
Mais cette efficacité énergétique, il y a énormément de progrès qui ont été mis en œuvre ces dernières années.
Oui, il y a beaucoup de progrès qui ont été mis en œuvre, mais alors pour vous donner un exemple très concret, l'accord de Paris fixe comme objectif d'avoir un monde qui soit neutre en carbone avant la fin du 21e siècle. Si on part de ce principe et que, en gros, on peut se dire qu'il faudra plus d'émissions ou très peu d'émissions de gaz à effet de serre, et donc on va pas pouvoir continuer à faire des voitures qui fonctionnent au pétrole ou au diesel. Et dans ce cadre, avoir des voitures qui consomment 5 litres, 4 litres, 3 litres ou 2 litres au 100, c'est pareil. Si on veut une voiture pour tout le monde, ça ne marchera pas. Donc il faut de la voiture à 0 litre. La voiture à 0 litre, c'est quoi ? Et là, je suis technologiquement neutre, ça peut être à l'électricité, ça peut être à l'hydrogène, à ce que vous voulez. Et sinon, il y a une voiture à 0 litre qui marche très bien, ça s'appelle le vélo. Il y en a une autre qui marche très bien, c'est la marche à pied. Et puis l'autre, c'est ne pas bouger de chez soi, ce qui demande un petit peu de volonté, encore une fois.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, un exemple de ce qui fonctionne, selon vous, c'est la taxe carbone, c'est-à-dire ce principe du pollueur-payeur. Quand est-ce que cette taxe carbone a été mise en place en Europe et qu'est-ce qu'elle permet aujourd'hui, Benoît Leguet ?
Alors en fait, il y a plusieurs taxes qui ont été mises en place. Il y a une taxe, ou plus exactement un système de quotas de CO2 négociables qui a été mis en place en Europe en 2005. Aujourd'hui, ça concerne les gros sites industriels, pour faire très simple, et le prix du carbone s'établit à peu près 20 euros la tonne. Par ailleurs, dans les différents pays, européens et ailleurs, en Chine ou dans d'autres, dans des États américains notamment, vous avez un certain nombre de pays qui ont mis en place des taxes carbone pour la même raison, réduire les émissions de gaz à effet de serre. En France, nous avons une taxe carbone qui aujourd'hui s'établit à 44,60 € si ma mémoire est bonne, ce qui ne couvre finalement tout sauf les sites industriels que j'ai mentionnés précédemment. Donc à chaque fois que vous achetez un litre de pétrole ou que vous achetez un bien qui est passé par une consommation énergétique en France, vous payez une partie de taxe carbone sans même vous en rendre compte.
Donc il y a un marché du carbone qui a été créé pour qu'on comprenne bien. Désormais, la tonne de carbone s'échange, c'est un produit comme un autre.
Alors on peut se dire que c'est un marché. Je préfère remettre les termes dans le bon sens. C'est un système de quotas négociables. Donc évidemment, comme ils sont négociables, il y a un marché derrière. Mais pour qu'on puisse échanger, il faut qu'il y ait un système de quotas. Et le quota ne sort pas de nulle part. C'est le régulateur, c'est les pouvoirs publics qui imposent une quantité maximale de pollution autorisée. Et en Europe, ce quota va décroître année après année. L'objectif étant d'amener l'Europe à net zéro avant la fin du siècle, etc. etc.
Alors, de nombreux économistes estiment que ce prix du carbone est trop faible. C'est le cas de Alain Grandjean. Pour lui, il faut absolument un prix du carbone élevé pour faire changer les pratiques.
Quand on met un prix au carbone qui a l'avantage de clairement sanctionner une externalité négative, et donc le carbone étant l'image pour dire les gaz à effet de serre qui dérèglent le climat, c'est sûr que quand on met un prix au carbone, on incite les consommateurs industriels, on incite les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie, parce que le gros, les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la combustion d'énergie fossile. Et on incite aussi les autres industriels à créer des solutions pour aider les uns et les autres à réduire leur consommation. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec un baril bas, on y reviendra tout à l'heure, et pas de prix au carbone, pas assez, ça donne pas les bons signaux. Et donc j'ai bien bien peur que dans les années à venir, si on ne prend pas l'opportunité qui est devant nous de mettre en place ce fameux prix au carbone, on risque de voir à nouveau la consommation déraper.
L'économiste Alain Grandjean au micro de Dominique Rousset sur France Culture en 2016. Les économistes Stern et Stiglitz recommandent d'atteindre un prix du carbone qui est compris entre 50 et 100 dollars par tonne de CO2 en 2030. On en est encore très loin, Benoît Leguet.
Oui, tout à fait, on en est encore très loin. Et je ne peux qu'abonder dans le sens que donnent Stern et Stiglitz. Pour vous donner un exemple, enfin, si on fait 100 euros la tonne de CO2, ça fait à peu près 30 centimes au litre à la pompe. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, il y a une taxe carbone en France. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous la payez, parce que c'est à peu près 10 centimes au litre. La question en fait là-dedans est double, dans la question du prix du CO2. Le prix du CO2, c'est un instrument qui peut aider à changer les pratiques à court terme. Donc si l'essence devient trop chère parce que le prix du CO2 augmente, vous allez peut-être réduire votre consommation de kilomètres. Donc là, on est dans la sobriété. Vous allez vous dire, ah oui, finalement, ça commence à coûter trop cher, je vais pas aller faire ce petit déplacement qui finalement n'est pas si important que ça. Et puis la question à plus long terme, c'est si le signal prix est suffisamment crédible, vous allez peut-être, lorsque votre voiture aura besoin d'être remplacée, vous allez peut-être vous poser la question du nouvel investissement que vous allez faire. Allez-vous racheter une voiture ? Premier point, au pétrole ou à autre chose, ou allez-vous vivre sans voiture? Donc en fait, un signal prix bien calibré doit à la fois pouvoir conduire à influer les comportements de court terme, mais également, ce qui est plus important, les décisions d'investissement sur le plus long terme.
Nous sommes actuellement à l'université d'été du MEDEF. Quel peut être le rôle des entreprises dans cette transition écologique et comment les inciter, à défaut de pouvoir les contraindre, à aller dans ce sens? Est-ce que c'est d'abord une question d'information, Benoît Leguet?
Alors il y a certainement une partie d'information. Pour inciter sans contraindre, j'ai du mal à voir comment on peut inciter sans contraindre d'une façon ou d'une autre, mais pour inciter sans contraindre, pour répondre directement à votre question, une entreprise peut marcher avec des motivations qui seraient liées à des opportunités, c'est-à-dire finalement des nouveaux marchés à aller chercher. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Chine se lance dans les panneaux photovoltaïques. C'est tout simplement parce qu'ils voient qu'il y a un marché à les prendre. Si la Chine et d'autres pays se mettent à faire du photovoltaïque, ils auront besoin de produits de panneaux photovoltaïques.
Ça permet aussi d'envoyer une image de champion de l'écologie, ce que la Chine ne s'empêche absolument pas de faire à travers toute une communication.
Il y a peut-être des effets d'image derrière, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a avant tout des questions vraiment d'ordre économique. Après, on peut également inciter, et c'est aussi une façon, on peut inciter en contraignant. Il y a un certain nombre d'outils économiques, par exemple les normes, sont un excellent outil pour inciter, entre guillemets, des entreprises à faire des choses. Pour vous donner un exemple, dans le bâtiment, ça sert à rien de mettre un prix du carbone. Vous pouvez mettre le prix du carbone à la valeur que vous voulez, ça ne changera rien. Ce qui fait avancer les choses dans le bâtiment, secteur sur lequel il y a besoin de faire énormément de choses, c'est la norme thermique, alors l'ART 2012 et d'autres normes thermiques qu'il faudrait rendre beaucoup plus ambitieuses.
Alors Antonin Potier, sur cette question d'offrir des opportunités économiques aux entreprises, car il semblerait que la contrainte politiquement, pour l'instant, ait du mal à apparaître.
Il faut de toute façon user de la contrainte aussi. Après, les questions d'incitation, normalement, c'est aux entreprises de les trouver elles-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux marchés, des marchés écologiques qui s'ouvrent, on espère que les entrepreneurs français ou autres se jetteront sur ces opportunités.
On peut se poser la question dans quelle mesure on peut les aider, les accompagner.
J'ai envie de dire que c'est leur rôle de trouver ça. Effectivement, on peut les aider, les accompagner, mais enfin, les enjeux actuellement sont assez clairs. On voit les directions dans lesquelles aller. Moi, je pense que s'il n'y a pas plus d'initiatives dans ce sens-là, il y en a quand même un certain nombre. Hein. On parle beaucoup des producteurs de pétrole et de charbon. Il y a aussi des producteurs d'éoliennes qui, bien sûr, poussent pour la réglementation et qui ont très bien vu les nouveaux marchés qui étaient possibles pour eux. Donc, je veux dire, c'est quand même, comme on est dans un système de transition, bah, les anciens acteurs sont plus gros et donc ont plus de poids, ont plus de force. Et donc, on est quand même ça, c'est ce basculement des forces qu'il faut gérer et qui est important. Voilà, donc je pense que il y a des choses encore à faire en termes d'information au niveau de l'État, et peut-être ce qui est plus important, c'est effectivement de donner un cap clair politique pour dire on ne va pas renoncer, on va aller là-dedans, de fixer des objectifs, de fixer un chemin pour qu'ensuite les entreprises s'accordent là-dedans en disant en fait on va pas revenir en arrière, on va s'arrêter, et donc effectivement la voie est tracée, ça va être un mix énergétique de telle manière, ça va être des manières de produire de cette façon-là, et c'est comme ça qu'on va pouvoir donner de l'impulsion. Le problème, c'est que ce cap est toujours à l'abri de revirements de majorité. On a pu le voir par exemple aux États-Unis avec Obama qui avait enclenché un petit peu une politique écologique et qui a été complètement pris à contre-pied par Donald Trump.
Vous parliez des énergies renouvelables. Il y a un certain nombre d'études qui estiment que ce ne serait pas si vert que cela, Benoît Le Guay. Donc on a l'impression qu'il est extrêmement difficile de trouver des opportunités économiques dans le capitalisme vert.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas arriver à un monde zéro émission nette par hasard. Donc là, déjà, je rejoins complètement Antonin. Alors, je voudrais pas utiliser un gros mot du type planification, mais quelque part, on sent qu'il y a un besoin de cap, de tendance, et un cap qui a besoin d'être politique, mais ensuite, il faut convaincre les acteurs économiques que ce cap va effectivement être suivi dans la durée. Ce qui, quelque part, nécessite la construction d'un consensus social autour de la question de la transition écologique. On n'est pas encore là aujourd'hui. Alors, ensuite, sur les énergies renouvelables qui ne seraient pas si propres que ça, je dirais même, pour prendre votre question de façon beaucoup plus large, en fait, il y a relativement peu de façons d'arriver à un monde net zéro en émissions.
Et y a un certain question, nombre... c'est ce qui est moins polluant.
Voilà, je dirais même au-delà. La question, c'est y a-t-il des choses qui sont fondamentalement incompatibles avec un monde net zéro ? Je donnais l'exemple de la voiture à 2 litres. Une voiture à 2 litres pour tout le monde, c'est incompatible avec un monde net zéro. Dès lors, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir dans de la recherche et développement pour passer de voiture à 5 litres, 4 litres, 3 litres, 2 litres ? Ou est-ce qu'il faut tout de suite investir, même si ça coûte beaucoup plus cher, et je pèse mes mots, dans des technologies qui, elles, ont une chance d'être compatibles avec un monde net zéro, c'est-à-dire des voitures à zéro litre, comme je l'ai dit, soit des voitures renouvelables, soit la marche à pied, soit le vélo, les pistes cyclables, etc. Mais là, il y a une vraie question, dans quoi devons-nous investir ? Et s'il y a des choses qui sont fondamentalement incompatibles avec les objectifs de court terme, il vaut mieux les abandonner assez rapidement.
Comment le capitalisme peut-il être un acteur de la transition écologique ? Eh bien, avec le développement de la finance verte, c'est ce que nous répond Ségolène Royal, qui a elle-même été ministre de l'écologie.
La France, en tout cas, est à l'avant-garde, vous le savez, puisque nous avons mis sur le marché 7 milliards d'obligations vertes, qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire des investissements qui sont garantis comme étant orientés vers la croissance verte, justement le bâtiment performant en énergie, l'isolation des bâtiments, le transport propre, le traitement des déchets, les énergies renouvelables, etc., les réseaux électriques en énergie renouvelable. Donc ces investissements-là, qui sont de plus en plus massifs, ont vu la finance s'orientait vers eux. Il y a eu des labels aussi pour les fonds d'investissement. Il y a tout ce qui concerne aussi le prix du carbone, la taxation carbone, et puis la mobilisation à la fois de la finance publique, c'est-à-dire des grandes banques d'investissement public comme la Banque mondiale, l'Agence française de développement aussi, qui joue un rôle considérable, alliée à la finance privée, pour que massivement les investissements viennent en particulier sur les énergies renouvelables.
Ségolène Royal, en octobre 2017, sur France Inter. Quel est l'un et l'autre votre regard sur la finance verte et sur le rôle de pionnier de l'Europe sur cette question, Benoît Le Guay ?
Alors, plutôt que de parler de finance verte, je préférerais parler de verdissement de la finance. L'enjeu, c'est pas de faire grossir le secteur de la finance verte, c'est-à-dire de faire grossir quelque chose qui pourrait être vu comme une niche. C'est plutôt de verdir ou de rendre durable l'ensemble du secteur financier. Donc, alors pour vous donner un exemple très concret, par exemple, en France, chaque année, on a 32 milliards d'euros d'investissements verts. Enfin, quand je dis chaque année, c'est depuis les 3-4 années, on a 32 milliards d'investissements verts. C'est super, c'est déjà pas mal. Mais en fait, la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire le total des investissements en France, c'est 400 milliards d'euros.
C'est une goutte d'eau, donc, la finance verte.
C'est une goutte d'eau. Alors, il ne faudrait pas forcément que les 400 milliards soient verts, mais pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 que s'est fixé la France, il faudrait faire plus que 32 milliards. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut plus d'investissements au total, hein, il faut simplement faire moins de marrons et plus de verts. Il faudrait, a priori, passer de 32 milliards à quelque chose qui serait aux alentours de 50 à 70 milliards d'investissements, entre guillemets, verts. Donc, moins de marrons, plus de verts, souvenez-vous du serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, c'est vraiment ça. Rendre la finance plus durable.
Comment est-ce qu'on peut verdir cette finance sans effectivement l'augmenter, Antonin Potier ?
Moi, j'ai deux remarques à ce sujet. La première, c'est que la finance, c'est effectivement un moyen qui démultiplie l'effet notamment de la parole politique. Donc si on dit tel secteur va être arrêté d'ici 20 ans, les investissements vont se retirer de ce secteur-là, le secteur va mourir de lui-même et ça peut accélérer ce phénomène-là. C'est ce qui a été fait avec tout un tas de projets qui visent justement à mettre en évidence les risques carbone des entreprises, c'est-à-dire les risques que font peser le changement climatique et les politiques climatiques sur ces entreprises. Donc là, la finance, c'est un moyen de démultiplier, on va dire, le poids de la transition et le poids de la parole politique. Mais il faut bien voir que la finance ne peut pas trouver en elle-même le point d'équilibre et que c'est bien un cap qui est donné par le politique et dont la finance n'est ensuite qu'un des moyens d'action qui démultiplie l'effet de cette parole. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, supposons qu'on ait un verdissement de la finance, si on en reste, malgré tout, malgré ce verdissement, avec une finance qui détermine ses investissements par des rentabilités à court terme, avec des flux de capitaux qui sont extrêmement volatiles, eh bien, on ne peut pas conduire une transition énergétique qui demande des investissements de long terme, avec une régularité de l'horizon et donc qui sont pas compatibles avec les mouvements extrêmement rapides qu'on peut observer sur les marchés financiers qui sont trop volatiles. Donc il y a quand même un problème du système financier mondial tel qu'il est conçu actuellement et dans ses liens avec la transition écologique. C'est pour ça que dans l'accord de Paris et aussi dans la commission Stern-Siglitz que vous rappelez, que vous avez mentionné tout à l'heure, il est rappelé que le système financier mondial doit être rendu compatible avec les objectifs de Paris. Et donc ça veut dire quand même une transformation du fait que la finance ne doit plus être on va dire quelque chose qui mène les investissements, mais vraiment un moyen, un service qui finance là où les investissements ont été dessinés, non pas quelque chose qui décide du type d'investissement à faire. Et donc cette réorientation des investissements est vraiment cruciale, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Benoît Leguet, c'est vraiment ça qui est capital pour la réussite de la transition écologique.
Et puis la question, c'est aussi d'éviter le greenwashing dans la finance comme ailleurs, c'est-à-dire cette volonté de se présenter comme un défenseur de l'environnement alors que les actions ne suivent pas. Donc il y a une vraie question de contrôle aussi, Benoît Leguet, contrôle étatique.
Alors effectivement, il y a une question de contrôle, enfin... Il y a une question de régulation même, enfin, pour employer un terme peut-être un peu fort. Quand vous dites greenwashing, effectivement, il y a quelques années, un certain nombre d'acteurs financiers faisaient des choses sur l'environnement, alors ça s'appelait investissement socialement responsable, responsabilité sociale et environnementale, etc. Et on peut supposer qu'il y avait des choses réelles qui étaient faites derrière, et il y avait également du greenwashing. Ce que je constate, c'est que depuis 5 ans, les personnes qui traitent des sujets environnementaux dans les institutions financières ont changé. Auparavant, c'était en général des directions de développement durable, parfois rattachées à la communication. Et maintenant, on voit de plus en plus les acteurs en charge des risques s'intéresser à ces questions. Tout simplement parce que on commence à comprendre que l'environnement devient un risque qu'il faut gérer. C'est-à-dire que si on le gère mal, on risque de perdre la valeur des actifs. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est devenu complètement intégré dans toutes les institutions financières mondiales. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais un certain nombre d'acteurs qui ont été mentionnés par Ségolène Royal, notamment l'Agence française de développement et autres, des acteurs publics, mais également des acteurs privés, commencent vraiment à s'intéresser à ces questions. Parmi ces risques, peut-être si j'ai 30 secondes supplémentaires, parmi les risques, il y a deux grands risques. Il y a le risque qu'on va dire de transition, c'est-à-dire soit ne pas bouger quand les autres bougent, ou alors bouger trop vite. Et donc se retrouver, se retrouver le dernier homme de Néandertal en train de faire des silex bifaces taillés dont plus personne ne veut. Ou bien être le dernier à extraire du charbon dont plus personne ne voudra. Donc ça, c'est le risque de transition. Risque de transition, c'est très connu. Kodak, par exemple, c'est un risque de transition. Il n'a pas vu venir la pellicule, enfin le numérique, ils ont disparu. L'autre risque, le risque de transition, je dirais, est à peu près bien appréhendé dans la sphère financière. L'autre risque qui n'est pas du tout appréhendé, ou très mal, c'est le risque physique, c'est-à-dire l'impact du climat sur la valeur des actifs. Souvenez-vous, sans agriculture, il n'y a rien. On pense bien évidemment à l'impact du climat sur l'agriculture, mais finalement, toutes nos activités humaines sont très dépendantes du climat. Et là, je pense qu'on le sous-estime largement, c'est une litote.
Et pour conclure, alors, cette émission, Antonin Potier, vous diriez qu'il faut garder espoir sur les possibilités de cette transition énergétique ou au contraire, avec tous les risques que cela comporte. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'idées qui avaient été apportées ici. Quelle conclusion vous apporteriez ?
Il faut toujours garder espoir, parce que sinon, on creuse sa tombe, puis on va se coucher tout de suite. Mais en revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que les temps vont être probablement difficiles, et qu'il faut aussi se préparer des changements environnementaux qui seront de nature à bouleverser nos sociétés. Donc il faut toujours essayer d'agir sur cette transition. On voit quand même les difficultés qu'il y a à la conduire, et donc il faut aussi se préparer à un monde qui soit plus violent, qui soit moins stable que la période qu'on a connue dans les 60 dernières années.
Merci à tous les deux. C'est maintenant l'heure de retrouver les nouvelles de l'écho avec Arjuna Andrade. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de la sortie de la Grèce, de sa tutelle internationale.
Oui, après 8 ans de surveillance financière, 3 plans dits de sauvetage et près de 300 milliards d'euros prêtés à l'économie grecque, Athènes et ses partenaires ont annoncé mardi dernier la sortie officielle de son troisième et dernier plan de renflouement. Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, a même choisi un lieu hautement symbolique, l'île d'Ithaque, pour annoncer avec emphase la fin de cette odyssée des temps modernes, selon sa propre expression, et la reprise en main par la Grèce de son propre destin. La métaphore est d'ailleurs assez bien trouvée, tant le pays a dû subir, comme Ulysse en son temps, le courroux et l'essor de quelques dieux lointains. Cartel, Athéna et Poséidon s'opposant sur le sort du héros voyageur, les puissances européennes s'étaient affrontées sur le dénouement de la crise grecque. On se rappelle ainsi de la douloureuse réunion du 21 juin dernier qui avait une fois de plus acté le fossé entre pays du Nord et du Sud sur les conditions de sortie de la Grèce de sa tutelle financière. Le peuple grec n'avait qu'à attendre que ces augustes négociateurs finissent par s'accorder sur son sort.
La situation de la Grèce semble pourtant loin d'être réglée.
Oui, et l'exercice d'autocongratulation propre à ce type de réunion ne masque que difficilement l'absence de ligne commune au niveau européen. En réalité, cet accord a seulement permis à la Grèce et à ses créanciers de gagner du temps. Au lieu de s'atteler sérieusement à la seule question qui compte, à savoir celle d'une restructuration ou d'une annulation complète de la dette grecque, les membres de l'Eurogroupe ont préféré repousser de 10 ans la date de remboursement des prêts consentis à Athènes. Et ce, à condition que la Grèce respecte un certain nombre d'engagements de rigueur budgétaire. Une liberté sous condition, donc. On rappellera que l'effacement total ou partiel de la dette d'un pays est loin d'être sans précédent et qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, des États ont vu leurs créances annulées comme un geste politique pour se tourner résolument vers l'avenir. On peut citer la Pologne et l'arrivée au pouvoir de Lech Walesa et même, ironie d'histoire, l'Allemagne en 1953. Il ne fallait alors pas risquer de mettre en péril le miracle économique de la jeune République fédérale. La prétendue mansuétude des créanciers qui ne font que repousser l'inéluctable confine donc au cynisme quand on sait que la dette de la Grèce atteint désormais 180% de son PIB et ne pourra jamais être remboursée. Une impossibilité dont tout le monde est d'ailleurs bien conscient, y compris à Bruxelles, surtout après l'inconcevable cure d'austérité qui a été imposée à la Grèce en échange de centaines de milliards d'euros généreusement apportés par ses créanciers. Le FMI, également partie prenante de l'accord, a lui-même affirmé à plusieurs reprises son scepticisme face à un plan qui exige de la Grèce de très forts excédents budgétaires, tout en continuant de mener une politique rigoriste qui a déjà fait plonger son PIB de 30%, décimer son appareil productif et entraîner le chômage de plus de 20% de sa population.
Mais alors qu'est-ce qui justifie une telle politique ?
Eh bien c'est une logique purement idéologique qui est à l'œuvre. Alors que la quasi-totalité des dirigeants européens et d'institutions internationales s'accordent sur le caractère toxique du remède imposé à la Grèce, l'Eurogroupe continue d'expliquer que tout aménagement de la peine grecque serait perçu comme du laxisme et ne pourrait que pousser d'autres pays au vice de la dépense et de la dette. À l'aune du commissaire allemand Günther Oettinger qui avait expliqué que les marchés allaient apprendre aux Italiens à bien voter, il y a donc clairement quelque chose de moral dans le régime infligé à la Grèce. Une forme de contrition imposée après des années d'impéritie d'un peuple tourné tout entier vers la dépense et la fête fiscale. Il faut dire que le fort endettement de la Grèce a tout d'une aubaine pour les membres de la Troïka, qui peuvent ainsi lui imposer leur agenda de réforme libérale en échange d'une aide financière. C'est d'ailleurs clairement ce qu'exposait le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, lors de ses négociations avec son homologue grec, Yanis Varoufakis. Admettant sans rougir que les plans d'aide étaient néfastes pour le peuple grec, le ministre allemand revendiquait travailler pour l'histoire et la grandeur de l'Europe, et n'offrait alors à Varoufakis qu'une alternative, se plier aux exigences de Bruxelles ou sombrer dans une sortie imposée de l'euro. On connaît aujourd'hui la suite de l'histoire.
De Frédérica Stahl, l'une des musiques du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un grand merci Benoît Leguet, directeur de l'Institut for Climate Economics, et un grand merci à vous aussi Antonin Potier, docteur en économie de l'environnement de l'EHESS et lauréat du prix Weibler. Je rappelle votre livre « Comment les économistes réchauffent la planète », c'était au Seuil. Et vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast, et nous rejoindre sur Facebook et Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Birds and their song. Remember them all, for you know there's no world to come.